petit, mon frère était déjà très intelligent. Il a appris l'anglais très tôt et il n'avait pas peur des Blancs comme nous autres. Les Blancs, Nelson en a déjà rencontré, le juge local ou le commerçant le plus proche de Kounou. Ils lui apparaissent grands comme des dieux et lui inspirent un mélange de respect et de peur. Les Blancs en Afrique du Sud, ce sont les Afrikaners et principalement les descendants des Boers, autrement dit des fermiers, des colons hollandais qui se sont établis en Afrique australe à partir du XVIIe siècle. Mais la colonisation blanche a aussi été anglaise. L'Afrique du Sud est un carrefour. Africain, blanc, métis, asiatique. Pour un blanc, il y a 4 noirs. Mais sur les 12 fêtes chômées que compte l'Afrique du Sud au milieu du XXe siècle, 5 commémorent des épisodes de la colonisation. Majorité noire et gouvernement blanc. En 1959, le Yearbook of South Africa, le livre annuel de l'Afrique du Sud, proclame fièrement « La domination blanche a apporté la paix aux Bantous. Grâce à la pacification et aux soins sanitaires fournis par le gouvernement blanc aux dépens des contribuables blancs, la population bantoue n'a cessé de s'accroître. Dans un véritable esprit chrétien, les Blancs ont compris que leur devoir était d'aider les races arriérées à atteindre un niveau de civilisation plus élevé. Si les Blancs avaient permis aux Bantous de continuer leur traditionnel mode de vie barbare, le rapport numérique entre Blancs et Noirs serait probablement plus favorable aux Blancs et la solution de nombreux problèmes serait aujourd'hui plus facile. » Lu dans le Yearbook for South Africa de l'année 1959. Revenons au petit Nelson. Pas à pas, année après année, son éducation se poursuit. Il change d'école et apprend toujours plus et vite, décrochant son brevet en 2 ans au lieu des 3 habituels. Il aime le sport, partage ses loisirs entre la course de fond et la boxe. En 1939, il a 21 ans, Nelson Mandela entre à l'université de Fort Hay, le seul établissement pour Noirs en Afrique du Sud, dont il sera exclu 1 an plus tard pour avoir participé à une grève. Il fait la connaissance d'Oliver Tambo, qui va devenir son ami et un compagnon de lutte. Il découvre le nationalisme africain. Il découvre aussi la pensée de Gandhi, qui a organisé pacifiquement la lutte de la communauté indienne pour ses droits civiques en Afrique du Sud, et l'AMISA, la résistance non violente. Pour l'heure, son tuteur a décidé de lui trouver une femme, un mariage arrangé. Il n'en est pas question pour Nelson, qui décide de disparaître. Il part pour Johannesburg, où il trouve du travail. D'abord comme gardien dans une mine, puis comme simple employé dans un cabinet d'avocat. C'est à ce moment qu'il découvre l'ANC, le Congrès national africain, au cours de longues conversations qu'il a avec un collègue qui va devenir son ami, un Africain de 10 ans son aîné, un personnage connu du Johannesburg noir. Mandela termine sa licence par correspondance et s'inscrit à l'université pour devenir avocat. Nous sommes en 1943, c'est l'année de son adhésion à l'ANC. Le mouvement a été créé en 1912 par un pasteur zoulou qui a étudié à Oxford. L'ANC dénonce le racisme et défend l'idée que tous les habitants d'Afrique du Sud doivent être des citoyens à part entière. À l'origine, ce n'est pas vraiment un parti politique, mais plutôt un groupe d'intellectuels, des instituteurs et des pasteurs, très marqués par le système politique britannique. L'opposition est d'abord pacifique et se fait dans le respect des lois. À l'époque où il en devient membre, en 1943, Nelson Mandela en parle comme d'un grand parapluie sous lequel tous les Africains peuvent trouver refuge. L'ANC est Walter Sisulu, un compagnon qu'il qualifie de fort et raisonnable, de pratique et dévoué, une figure de l'ANC, un modèle. Sisulu, Tambo, Mandela, ils seront 3 à former la Ligue de la Jeunesse de l'ANC. En 1943, l'apartheid n'est pas encore institutionnalisé. Le mot lui-même n'est pas employé. C'est 5 ans plus tard, en 1948, que la loi sera votée, la même année que l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais depuis longtemps déjà, l'Afrique du Sud est un pays ségrégationniste. Dans le livre « Au pays de l'or et du diamant » qu'il écrit en 1932, on peut lire ce terrible constat sous la plume du journaliste et prix Albert Londres, Max Massot. Les Noirs n'ont qu'à payer en respect et en soumission l'honneur qu'on leur fait d'être chez eux.